Néhémie est un exemple d'un revirement dans la vie de quelqu'un qui avait une bonne situation, qui avait la possibilité d'avoir le confort, d'avoir un establishment, comme on dit, c'est-à-dire d'être reconnu, d'avoir pignon sur rue, d'avoir ses enfants avec des avantages, sa dame avec des belles tenues, etc., belle maison. C'était quand même quelqu'un qui avait la considération de l'empereur, qui avait gagné sa confiance et qui pouvait avoir une influence, en tout cas une prestance devant les autres. Donc, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, donc c'est novembre-décembre, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Donc, il y a deux... Il faut savoir que ce grand empire s'étendait de l'Inde jusqu'au fond, jusqu'à l'Éthiopie, hein, et aux portes de l'Europe, en Grèce. Et pratiquement, il y a deux villes, une ville d'été, une ville d'hiver pour les empereurs perses, iraniens, si vous voulez, hein, Persépolis et Suse, une pour l'hiver, une pour l'été. Au mois de Kisleu, novembre-décembre, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Donc, il faut savoir que l'exode a eu lieu en 605 avant Jésus, pour toute la noblesse, pour toute l'élite, et puis ensuite, en 603, tous les artisans, tous ceux qui avaient un savoir-faire important, parce que ces empires-là faisaient une razzia, prenaient tous les gens compétents pour faire des grandes cités, pour faire des grandes réalisations. On ne leur demandait bien sûr pas leur avis. Et en 597 avant Jésus, 98 si vous voulez, avant Jésus, suite à diverses rébellions, désobéissances du peuple juif, Jérusalem, tout était rasé. Tout était rasé. Alors, bien que rien n'aurait pu être rasé, tout aurait pu rester en place. Jérémie l'avait dit, obéissez, vous êtes puni par Dieu pour 70 ans, 70 ans. Vous êtes puni par Dieu et vous devez accepter. Et rien n'aurait été détruit. Et il n'y aurait pas eu trois invasions sur Jérusalem et autant de violence. Mais les Juifs pensaient que il devait résister et que Jérémie est un faux prophète. En général, les faux prophètes semblaient avoir raison et les vrais prophètes semblaient avoir tort. Et avec le temps, les vrais prophètes ont montré qu'ils avaient raison. C'est la même chose encore aujourd'hui. Quand quelqu'un veut quelque chose pour Dieu et que c'est tout à fait biblique, en général, c'est pris du revers de la main. Quand quelque chose plaît à l'oreille et va dans le sens du poil, ça plaît à tout le monde, ça semble venir de Dieu. Et avec le temps, il n'en reste rien. Dieu a balayé tout ça. Méfions-nous de qui on entend et de qui on accepte dans sa vie. Verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Le malheur, c'est qu'ils sont pauvres, que tout est déstructuré, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus rien, que les maisons, beaucoup de maisons ont été brûlées, tout, c'est des ruines, donc ils habitent dans des cabanes et des choses pareilles. Et puis l'opprobre, c'est la honte. Vous êtes vaincus, vous n'êtes plus rien, vous ne pouvez plus prier ensemble, vous ne pouvez plus parler de votre nation. Vous comprenez ? L'opprobre, c'est... vous êtes un zéro. Ok ? Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Je vais vous donner un exemple. Des chrétiens qui sont en Turquie actuellement, dans les camps, soit Syrie, Irak, ou en Turquie dans leur maison, ils sont rien du tout pour Erdogan. Mais rien du tout. Nous, on a eu le témoignage direct d'un homme dans un camp de réfugiés, où chaque fois qu'on distribuait la nourriture, comment dit-on le prénom ? Quand c'était un prénom chrétien, l'enfant ou la personne n'avait pas à manger. Imaginez ce qui se passe là-bas. Nous, on s'en lave les mains ici en Europe. On a donné l'argent, et qui est en train de subir le malheur et l'opprobre? Les chrétiens. Ceux des camps et ceux qui sont dans la Turquie. Et le malheur et l'opprobre sont venus d'un manque de fidélité des chrétiens dans tous ces pays-là. Abandon de la parole de Dieu. Abandon. Attention à nous. Abandon du respect de Christ et de son sacrifice, de la prière, instauration d'une religion avec du ronron, avec des icônes, avec des croix, avec de l'encens et des beaux chants. Hein? Et Dieu avait prévenu, dans l'Apocalypse, Dieu avait prévenu. Donc, vous voyez que le malheur et l'opprobre peuvent durer longtemps, jusqu'au retour de Jésus. Regardez en Europe. À quel point le christianisme est à terre. Et dans les églises, souvent, il n'est pas réellement vécu. Et l'opprobre, il faut être taré pour être chrétien. C'est des retardés, etc. Et un enfant chrétien dans une classe d'école, il est tout seul. Pourquoi l'opprobre? Mais regardez ce qu'on a fait. On a déchiré toute l'Europe entre protestants et catholiques. On a réellement commis des meurtres au nom de Dieu. On a fait des guerres au nom de Dieu. On s'est déchiré entre peuples. On a colonisé avec la force et la puissance au nom de Dieu. On n'a pas obéi à Dieu. Nous n'avons pas obéi à Dieu. Nous avons le malheur et l'opprobre. C'est pas encore fini jusqu'au retour de Jésus. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Vous savez bien que dans les Béatitudes, dans Matthieu, au chapitre 5, heureux les affligés, heureux les persécutés, heureux qui souffrent, ceux qui souffrent en mon nom. Tout de suite, dès le départ, Jésus enseigne que les vrais enfants de Dieu sont dans la désolation et sont affligés. Pourquoi? Parce qu'ils voient les trahisons tout alentour du nom de Dieu. Ils voient le manque de fidélité et ils en souffrent. Et il y a même une opposition entre les gens qui pratiquent une religion et les gens qui ont cette foi vraiment dans le Seigneur Dieu. Une opposition. Il y a les moqueries, les murmures, les railleries. Pensez au psaume 1. Ne t'assieds pas au banc des moqueurs et des railleurs. Donc, la désolation règne dans Jérusalem parce que tous ceux qui sont venus s'agglutiner dans Jérusalem se moquent des derniers juifs. Comme aujourd'hui ici, je pense à notre Noémie, mais j'ai connu ça pour Bénédicte, pour Véronique. Véronique perdait ses cheveux même à l'école, tellement on se moquait d'elle. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de cheveux dans la douche, et puis quoi? Il a fallu qu'on réunisse toute la famille et qu'on prie au nom de Jésus. Et le lendemain, trois jeunes filles de la classe demandaient pardon à Noémie. Même une lettre, une par écrit. À Véronique. Mais combien de fois Bénédicte, je l'ai vue pleurer, et il a fallu que je la console et que je prie avec elle. Et Noémie a connu des choses comme ça aussi. Surtout les premières années du secondaire. Il y a une opprobre sur celui qui a la foi. Il y a une opprobre. Et donc, quand il entend ça, Néhémie a de la compassion, il participe à la souffrance du peuple de Dieu. Et lui-même, tout le monde n'est pas juif en Iran, chez les Mèdes et les Perses. Ce sont quelques rares juifs à droite et gauche. Et pratiquement, cette désolation est une œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas psychologique. Ce n'est pas pour aller chez le psychiatre ou prendre des cachets, des médicaments. C'est parce que l'œuvre de Dieu est combattue férocement. C'est une souffrance parce que Dieu n'est pas honoré, parce que la foi est combattue. C'est une souffrance légitime. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alors, Néhémie a une immense estime de Dieu, une connaissance extrêmement grande de Dieu. Je vous la souhaite. Si vous voulez vivre vraiment dignement, et avoir de la force, il faut avoir une conception extrêmement élevée et riche de Dieu. Votre culture de Dieu est à la base et le pilier de votre vie. Si c'est une connaissance superficielle, ce n'est que des débris tout le temps, votre vie chrétienne. Il faut faire attention à vous. Néhémie, chapitre 9. Néhémie, chapitre 9, verset 2. Et ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent, confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés en lutte dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Il y a donc un retour vers la connaissance du péché. Il y a un retour vers la connaissance de notre abandon réel, de notre défection intérieure, de notre manque de témoignage. Il y a un retour. Et il y a un acte qui est posé de repentance, qui est très important. Ça, c'est quelque chose où le linge sale passe à la machine à laver. Et il en ressort plus propre. Peut-être pas encore vraiment propre, mais il en ressort plus propre. Regardez bien au verset 6, chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux. Les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle. Les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui. Tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, Phérésiens, Jébusiens, Kirgaziens, donc la Palestine. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu as vu l'affliction de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs, contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais quelle méchanceté ils avaient. Avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Etc., etc. Il y a tout le récit de la délivrance. Et au verset 10, je suis toujours au chapitre 9, verset 16, « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil, raidirent leurs coups, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnes pas. » Dieu ne nous abandonne pas. Vous avez vu tout à l'heure ce qu'a dit Vincent, les humeurs dans les couples, les hauts et les bas dans un couple, c'est des deux côtés, ça arrive. Mais dans le couple du croyant avec Dieu, Dieu est fidèle et stable. Il est sans variation dans son amour pour nous. Et nous croyons, oula. Et donc, vous voyez ici que Néhémie a une conception extrêmement élevée, très morale, très droite, envers Dieu, et il sait sa responsabilité, la responsabilité aussi de son peuple. Reprenons chapitre 1 de Néhémie. Quand on dit Dieu des cieux, et les cieux des cieux, ça veut dire c'est les anges, les archanges, les saints, ceux qui sont décédés, qui sont sauvés, etc. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Donc Dieu n'est pas loin, il est là. Vous vous rendez compte, pour Néhémie, Dieu est là dans sa vie. Et je dis au Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons le même thème. Dieu attend de nous la fidélité, l'obéissance, la vérité, la droiture. Et Dieu, lui, est fidèle et droit envers nous. Alors, au verset 6, regardez. C'est un Dieu de compassion, un Dieu d'attention, un Dieu qui aime son peuple. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, leurs péchés contre toi. Il est tout seul en train de pleurer pour tous les péchés de son peuple et il est en train de dire, Seigneur, je demande pardon pour tout mon peuple. Il faut savoir que Moïse, en Deutéronome chapitre 28, avait déjà annoncé la déportation. On était au 15e siècle, en 1430. Il a dit, si vous rentrez dans ce pays et que vous n'obéissez pas à Dieu, ne vivez pas dans la voiture, vous perdrez ce pays. Vous perdrez votre lieu de culte. Vous irez en déportation. Vous serez dans une âme souffrante et désespérée. Moïse avait tout annoncé. Et tous les prophètes ont annoncé la même chose. Donc Dieu n'a pas pris en traître son peuple. C'est le peuple qui a été traître envers Dieu. Alors, il dit les choses comme elles sont. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé. Fin du verset 6, début du verset 7. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Chers amis, aujourd'hui, vous voyez bien à quel point l'islam rentre dans l'Europe. À quel point aussi l'athéisme est rentré. À quel point il y a d'autres mouvances, beaucoup d'occultisme. Quand quelqu'un, de quelque bois qu'il se chauffe, rencontre un chrétien qui ne joue pas avec Dieu, qui est réellement droit et sincère, qui a le sens de son péché, le sens de la repentance, et qui se corrige continuellement, cet homme pratique les commandements. Il aime son prochain, il parle de l'amour de Dieu aux autres, il sait que s'il est sauvé, c'est à cause du sang de Jésus à la croix. Il en parle, il le vit, il n'y a rien à faire. N'importe lequel qui vous regarde ne pourra pas dire c'est un jeu. Ils font semblant. Ils sont chrétiens pour eux-mêmes parce que ça les arrange. Ils ne pourront pas dire Dieu n'est pas dans leur vie. S'il faut fermer, vous fermez. Ça, c'est beaucoup de bruit, je trouve. Enfin, voilà. Personne ne pourra dire de vous c'est un jeu. Mais si vous vous payez le luxe, de faire du cloche-pied et de mener une vie un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu de la parole de Dieu, vous êtes jeté à la poubelle directement dans le regard de n'importe quel musulman, de n'importe quel athée, n'importe quel incroyant ou personne qui fait de l'occultisme. Vous n'avez rien à leur apporter et ils se moqueront avec grande liberté de vous. Si vous êtes fidèles, ils se moqueront de vous en riant jaune. Vous savez ce que ça veut dire, rire jaune? En sachant qu'ils ont tort. Ils vont vous user par leur raillerie et à un moment donné, ils vont s'arrêter. Moi, j'ai fait l'expérience, combien de fois, de gens, même qui m'avaient insulté, qui m'avaient menacé, changé d'avis après 20 ou 30 ans. C'est une question de résistance. Quand dans un tableau électrique, il y en a 5 ou 6 des tableaux électriques ici, dans les tableaux électriques, si les fusibles sont solides, ils déclenchent quand il y a de l'orage, puis on le remet. S'ils sont de mauvaise qualité, ils sont grillés, il faut tout changer. Sommes-nous des bons fusibles que Dieu peut renclencher, ou des mauvais fusibles, ils sont grillés, il faut jeter. Néhémie est un bon fusible. Alors voilà ce que Dieu a dit déjà à l'avance par Moïse. Verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Deutéronome 28. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai. Je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Eh bien, cette prière-là, vous voyez, Il faut que chacun de nous, si vous travaillez sur un chantier, à l'hôpital, n'importe où, que vous travaillez dans une école, il faut avoir des prières de ce genre. Et regardez bien ce qui va se passer. Donne-moi du succès. Ça veut dire que je sois glorifié. Non. C'est pas vrai, c'est pas ça. Hein? Regardez ce que Néhémie a dit au verset 9, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc, mon peuple va retourner à Jérusalem. Le lieu de culte va être réédifié. Les murailles vont être faites. La ville va revivre et va louer Dieu. Et elle sera là pour les nations. C'est ce que Jérémie avait dit aussi. Donc, il demande beaucoup, hein. Ça s'appelle une vision. C'est ça une vision. C'est voir à l'avenir, avoir une photo de l'avenir, de ce qui va arriver, et j'y crois. J'y crois. Parce que c'est Dieu qui l'a annoncé. J'y crois, mais il faut que j'y crois au point que ça arrive. Donc je vais m'investir et je ne vais plus douter. Je vais croire et j'aurai la passion qu'il me faut, que Dieu m'alimentera tous les jours, pour m'investir pour cette réalité à venir. Il y a la foi et la passion. La passion est un attachement inconditionnel qui se renouvelle, parce qu'une énergie revient tout le temps en nous. La vision est nécessaire chez le chrétien. Si vous n'avez pas de vision, où allez-vous chaque jour? Si, je pense par exemple, il y a des chrétiens qui sont séparés, qui ne sont plus en couple. Ça arrive. Ont-ils la vision que Dieu peut les réconcilier, les remettre ensemble? Ont-ils la vision que Dieu, même s'ils sont encore ensemble, mais il n'y a plus rien qui va depuis des années, on vit ensemble parce qu'il faut. Dieu va-t-il avoir la puissance pour nous réconcilier et nous unir et faire qu'on soit de vrais amis, comme un frère et une sœur, qu'on soit, que notre intimité soit juste, vraie et profonde, que nos échanges soient toujours basés sur le vrai. C'est, il faut avoir une vision dans le couple. Vous croyez que c'est automatique le couple parce qu'il y a eu un beau jour de mariage, des flonflons, des photos sur internet et tout le reste? Mais tout ça c'est du vent. C'est ce qu'il y a dans l'âme qui compte. Alors, regardez, Néhémie chapitre 2, au mois de Nisan, donc c'est avril, hein, la 20e, Néhémie chapitre 2, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin, je l'offris au roi. Pourquoi il faut avoir un échanson? Simplement parce que l'échanson a trié les bons vins et il le boit devant lui, un petit coup. Pour que le roi sache que ce n'est pas empoisonné. Vous savez, il est coufouré en politique. Hein, et dans ce genre de choses, on a vite fait de liquider quelqu'un. Il devait goûter tous les vins et pour que le patron, hein, des patrons, le grand patron, ne meure pas. Et le grand patron avait confiance en lui. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Voilà un homme qui est occupé avec un royaume considérable et qui s'intéresse à son gars-là qui est là pour le vin. Et il a apprécié ses services, il a confiance en lui. Les chansons, Néhémie a gagné la confiance. Il est droit. Il y a quelque chose en lui qui inspire confiance à ce roi. Un roi tordu! Un roi qui peut faire tuer, comme il veut, quand il veut. Un roi polygame. Un roi qui organise des conquêtes. Un roi qui organise certainement des emprisonnements, même des meurtres. Alors, voilà qu'il s'intéresse à lui. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Ben oui, sans doute que tu es amoureux de quelqu'un et ça ne va pas. Ben, c'est peut-être avec ta femme ou c'est peut-être avec une copine. Parce que ce gars-là, de toute façon, mariage juif, il ne le connaît pas. Alors, je fus saisi d'une grande crainte. Il est dévoilé. Et il va devoir abandonner son masque et être comme il doit être. Vous voyez, à un moment donné, devant les incroyants, un vrai chrétien À un moment donné, il devra tomber le masque et se montrer comme il est. Mais à ce moment-là, je me montre vulnérable. Je me montre vulnérable. Je ne suis plus rien. C'est comme une poule qui a perdu ses plumes. Je suis là, et qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, c'est là que cet homme dépend vraiment du Seigneur. Il dépend vraiment du Seigneur. Je fus saisi d'une grande crainte, verset 3, je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Alors, il sort ce qu'il a sur l'âme. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Pourtant, c'est un exilé de la quatrième génération. Au moment où ils discutent, nous sommes en 446 avant Jésus. En 446 avant Jésus, et 605, il y a une distance, hein, il est de la quatrième génération. Il pourrait dire, basta, je m'en fiche. Hein? C'est pas mon problème. Hein? Mais non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comment pourrais-je être heureux si la ville de Dieu, la ville où il y a eu des promesses pour mon peuple, est détruite? Il n'y a plus rien depuis quatre générations. Et on a trahi. On l'a mérité. Comment puis-je être heureux sans que le plan de Dieu se fasse? Les amis, je voudrais que vous sachiez ceci. Quand le plan de Dieu se fait, si réellement le vrai enfant de Dieu est heureux, quand le plan de Dieu ne se fait pas, le vrai enfant de Dieu est affligé et triste. C'est un cœur vrai. C'est un cœur qui est comme celui de Dieu. Quand vous voyez que Jésus va devant le tombeau de Lazare et qu'il pleure, c'est le verset le plus court, hein, dans ce chapitre de Jean. Et Jésus pleura, c'est un seul verset. C'est le verset le plus court de la Bible. Mais Jésus pleure parce que l'homme n'est pas venu sur la terre pour être dans la mort, dans la pourriture, dans un tombeau. Jamais Dieu n'a créé la mort, ni la maladie. Jamais. C'est le péché qui a amené la mort et la maladie. Dieu est opposé à la mort. Dieu veut la vie. C'est un Dieu de vie. Eh bien ici, regardez bien. Verset 4, le roi me dit, que demandes-tu? Il a craqué, il a dit pourquoi il était triste, et le roi lui dit, mais arrête tes sornettes, tes bêtises et tout le reste. Non, pas question. Il lui dit, que demandes-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et il a ouvert la porte. Je priais le Dieu des cieux. Ça veut dire, il me reste 2 secondes pour sortir quelque chose de ma bouche. Et Seigneur, les 2 secondes sont des secondes de l'éternité, de la vie de Néhémie avec Dieu. Comme il en a déjà eu des centaines de fois, dans sa chambre, ou en marchant dans la rue, ou en servant l'empereur. Il a eu des secondes, des minutes, des heures avec Dieu. Donc, au moment où Dieu lui donne 2 secondes pour lui parler, Néhémie est habitué à parler à Dieu, et il est habitué à ce que Dieu lui réponde, fasse des signes. Donc 2 secondes sont suffisantes pour un acte décisif. Pourquoi? Quand vous avez des grandes épreuves, si vous n'avez jamais prié avant, votre 2 secondes où vous devriez dire quelque chose à Dieu, c'est un chaos. C'est un chaos. C'est une misère. Mais si vous avez pris l'habitude régulièrement d'aller dans la parole et de prier, au moment où, devant une situation, il y a urgence, vous ne pouvez pas faire des heures de prière ou des minutes de prière. Dans un accident sur une autoroute, ou devant un malade à l'hôpital, ou devant quelqu'un qui vient, qui est en dépression, ou devant un problème d'argent avec des factures, etc., insurmontable, les 2 secondes que vous avez seront couvert de toute la bénédiction, de toutes les heures et des secondes que vous avez données à Dieu avant. De vraies relations. S'il y a des fausses relations, deux secondes d'enfer. Vous allez vous casser la figure. Et je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui agréable, envoie-moi Judas vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebaptise. Voilà. La requête qu'il veut faire à Dieu, la requête qu'il veut faire à Dieu, qu'il la dépose devant un incroyant. Est-ce que vous pensez que Dieu a toujours besoin des croyants pour réaliser quelque chose? Non, il choisit qui il veut. Mais le croyant Néhémie voit que Dieu a travaillé un homme incroyant. Cet homme incroyant va lui donner la réponse à la situation de Jérusalem. Vous savez, dans Ésaïe, déjà, il y a des chapitres où Dieu avait dit à Ésaïe, mais ça c'était en 780, c'était 340 ans avant, il avait dit, je choisirai mon serviteur, mon oint, Cyrus, pour reconstruire Jérusalem. Mais vous rendez compte? Est-ce que vous rendez compte? Et effectivement, 70 années après, en 535, oui, Cyrus renvoie 43 000 personnes à Jérusalem pour reconstruire le temple. Mais ici, Néhémie va faire quoi alors? Le temple, il ne sert encore à rien. Il est construit, mais il y a eu des détracteurs, et on dit que les Juifs voulaient faire une insurrection, on ne peut pas y prier. Ben, Néhémie va repartir pour qu'il y ait des murailles, que la ville se reconstruise et qu'on prie dans le lieu de culte. Les Juifs. En 2-3 secondes, Dieu a fait un miracle pour la vie d'Israël. Et si vous regardez bien tous les périples, à travers toute l'histoire d'Israël, Israël est un témoignage de l'existence de Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle, l'existence d'Israël. Mais regardez l'acharnement de Satan. Il n'y a pas que Hitler avec ses camps de concentration. Il y a eu en Russie, avec les tsars, etc., le communisme. Il y en a eu plein, et c'est pas fini. C'est juré d'aller à Jérusalem, de mettre le drapeau de l'islam. Il s'y prépare, il va liguer des gens avec. C'est Ézéchiel 38, c'est pas fini. Et la gloire de Dieu a toujours éclaté pour faire ressurgir Israël. Alors, vous voyez, je prie Dieu des cieux, je répondis au roi, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers les villes de Sébu. Donc, l'onction de Dieu qui est sur Néhémie a déjà touché le cœur de son ennemi, de son maître, rempli d'iniquité. L'onction, quand vous êtes dans votre vie, si réellement vous vivez sous l'onction de Dieu, que vous avez de l'amour et que vous voulez vivre vraiment avec Dieu tous les jours, quand vous avez quelqu'un qui est comme une tête de bois en face de vous, hein, quelqu'un de buté, quelqu'un qui ne change pas, vous n'avez qu'à vous faire tout petit devant Dieu et demander que l'onction tombe sur cette personne. Dieu peut faire sortir de toutes ces pierres à terre des enfants à Abraham, a dit Jean-Baptiste dans sa prédication. La petite crapule de Zachée qui extorquait de l'argent à tout le monde. Quand Jésus a dit « Aujourd'hui, je vais chez toi », ce Zachée dont personne n'espérait un changement, dont personne n'avait un gramme d'estime pour lui, mais Zachée est devenu un enfant d'Abraham pour Jésus. Par quelle onction? Par l'action du Saint-Esprit. Rien de ce que nous faisons ne peut changer le cœur des autres. Rien de ce que nous sommes. Mais l'onction qui est sur nous, si nous sommes sincères, nous sommes vrais en Christ, l'onction, l'action du Saint-Esprit peut agir dans l'autre. Et c'est là que vous voyez que le royaume de Dieu joue, agit. Ce n'est pas que vous êtes le royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous êtes là pour le royaume de Dieu. Vous êtes là pour la conquête des âmes et des esprits, par le Saint-Esprit, pas par vous-même. Alors regardons le verset 6, le roi auprès duquel la reine était assise, c'était très rare, hein? Très rare qu'elle soit là. C'était un jour extrêmement important, il y avait plein de monde, peut-être des délégués de tous les pays, etc. Il fallait faire voir la reine, quoi, hein, ce jour-là. Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il put au roi de me laisser partir, je lui fixai un temps. Regardez ça. Le roi veut bien se débarrasser d'un homme intègre qu'il a tout près de lui, qui lui assure une sécurité. Imaginez, cet homme lui assurait une grande sécurité. Il veut bien le perdre. Vous voyez que même un ennemi peut donner de quelque chose qu'il a de très cher à lui-même pour l'œuvre de Dieu. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison. Pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occuperai, le roi me donna cette lettre, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Mais c'est comme s'il donnait son carnet de chèque. Hein. Et vous croyez, les amis, j'avais prêché dans une église, c'était l'église la plus considérable que j'ai vue au Bénin, hein, 6000 personnes. J'avais prié sur Pierre avant le don du Saint-Esprit et après le charnel et le spirituel. Et je fais appel pour voir qui voulait donner sa vie à Jésus. Ce jour-là, j'ai vu vraiment, c'était formidable. Il y en avait des centaines qui levaient la main. Et il y avait 14 pasteurs dans cette église, donc je suis parti. J'avais toujours dit, quand je fais l'appel, après je m'en vais. Ça ne m'appartient pas ce qui se passe ici, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Et la même chose, je ne veux pas qu'on me court après et me faire des félicitations. Et donc je pars, je vais dans une petite pièce pour prier. Et il y a un des pasteurs qui me suit. Et il était le bras droit de... Il avait les carnets de chèques qui vendaient du pétrole, il était riche. Il fondait 450 mosquées par an pour islamiser l'Afrique noire. Il faisait des services sociaux, il donnait de l'argent aux pauvres, de la nourriture, etc. Et les Noirs se faisaient musulmans et rentraient dans la mosquée. Vas-y, Nénès, pour un islam, à cette manière-là, comme parfois des chrétiens font, hein, en ne comptant pas sur la croix de Jésus pour que quelqu'un devienne chrétien. Souvent, on fait des œuvres de charité et des générosités en croyant que ça va amener des vrais chrétiens. Non, ça n'amènera que des chrétiens charnels, hein. Alors, c'est pas interdit d'en faire, mais amener des chrétiens charnels dans une église, c'est amener le lion dans l'église. C'est amener des gens nés de nouveau dans l'église, il faut amener. Nés de l'Esprit Saint, sous l'onction de Christ. Eh bien, pratiquement, ce qui se passe... excusez-moi, j'ai une coupure. Qu'est-ce que je viens de dire?
Cet homme-là, il était...
Oui. Cet homme-là a vu pendant la nuit le Christ, Jésus. Il l'a vu, comme l'apôtre Paul. Et il a tout arrêté, il est parti. Il n'avait jamais lu la Bible. Il avait fait l'université wahhabiste, intégriste. Et qu'est-ce qui s'est passé? En cours de chemin, il a rencontré des chrétiens, il a reçu une Bible, il l'a lu, et il est parti. Il a changé de nom, d'identité et tout. Et il sert le Seigneur, là-bas dans une ville du Bénin. Cet homme-là n'a pas pu quitter tous les avantages qu'il avait. Hein? Cette place énorme, sans une réelle œuvre de Dieu en lui. Pas possible. Mais c'est comme Néhémie. C'est comme Néhémie. La vision de Dieu est donnée par Dieu. Mais elle est donnée à un cœur humble, un cœur qui se laisse travailler, un cœur qui s'abaisse pour que Dieu fasse sa volonté, fasse son œuvre. Si vous aimez garder de l'orgueil en vous-même, garder des parcelles de vous-même, comment voulez-vous que Dieu vous donne une mission et une vision pour cette mission? Dieu va-t-il donner quelque chose de beau et de grand dans un lieu impur? Qui est notre âme, une âme qui est partagée, qui n'est pas entièrement à lui. Ce sont des choses extrêmement importantes. Alors, vous voyez que l'empereur ici donne comme un carnet de chèques. Il donne toutes les possibilités matérielles à Néhémie de reconstruire les murs. Et que tous ces gens qui vont en voir arriver, ils vont voir que cet homme vient avec les moyens de faire ce que eux, ils n'avaient aucun moyen. Quand vous voyez notre école ici, hein, et la maison de prière, projet de maison de prière, néant nous, petite assemblée, en plus on a reçu pendant des années tellement de réfugiés, de gens, de personnes qu'on s'est déplumé. Et on a bout de souffle au niveau argent. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Tout. Dieu peut faire tout. C'est dans ce Dieu-là, moi, que je crois depuis toujours. Je ne veux pas un Dieu de pacotille, un petit Dieu comme une statue. Hein. C'est pas la peine de perdre sa vie pour un faux Dieu. Je dois présenter au début du mois de septembre, le premier mercredi de septembre, à 7h30 du soir, au dolmen, devant des gens, la découverte que j'avais faite à 18 ans du dolmen. Quelques jours après la découverte, le monsieur qui s'occupait du musée de Virton me disait « J'aimerais bien que tu prennes ma place. J'ai confiance en toi. Je veux bien te payer les études d'archéologie à Liège. » Je vais regarder « Monsieur Fouss, je vous demande pardon. J'aime trop Dieu. Je veux le servir. Je ne peux pas être votre conservateur du musée. J'aurai une place à vie, planquée. Et vivre toutes mes passions pour la vieille pierre. Ben oui, j'aime bien tout ça. J'aime bien tout ça, moi, l'histoire et tout le reste. C'est parmi mes friandises, si on veut, autant que le chocolat. Alors, pratiquement, c'était à l'instant même que je devais répondre. Il m'a demandé une réponse tout de suite. Mon cœur était prêt à dire « je ne peux pas, je ne veux pas ». Combien de fois il faut dire « non, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela ». Si vous êtes chrétien, il y aura des occasions de chuter au niveau sexuel, au niveau libertinage. Il y aura des occasions de regarder la TV quand la personne est là, des tas de mauvaises choses. Il y aura des occasions de faire avec son argent des drôles de trucs et que personne n'en saura rien. Il y a des occasions de tout et il faut dire non. Par amour de Dieu. Parce que vous êtes entre votre Dieu et vous, c'est une question d'amour, de foi en Dieu. Et au bout d'un certain temps, le diable viendra vous dire au bout de 20 ou 30 ans, tu aurais dû faire comme les autres. Tu aurais dû t'en payer une bonne tranche. Tu aurais dû t'amuser. Tu aurais dû faire ça, cet achat-là. Tu aurais dû faire ça. Regarde avec les sous que tu as fait et que tu as mis pour ton Dieu. Regarde, tu aurais pu faire des belles choses pour toi. Le diable, il nous asticote, il nous vient. Il faut être sans retour. Sans retour et sans remords. Il faut se donner. Sans retour, sans regret. Entièrement. Ça, c'est Néhémie. Alors, chapitre 2, verset 9, « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée, par des cavaliers. » Imaginez, le voilà avec tout un entourage, parce que le roi veut sécuriser Néhémie. Tiens, voilà qu'un ennemi s'arrange pour que vous soyez... Alors, vous le croirez ou vous ne le croirez pas, pourquoi est-ce que les portes sont ouvertes la nuit, ici? À part pour Bénédicte qui a un peu peur, mais pourquoi elles sont ouvertes? Quand nous sommes partis 4 jours, elle a dormi avec les portes ouvertes, il n'y avait pas de clé. Il n'y a plus de clé, on ne sait plus où est la clé. Pourquoi? Parce que tous les voleurs que j'ai connus en prison à Arlon, m'ont dit, le premier qui vient voler chez toi, chez les bailleux, on lui casse la figure. Et je sais qui sont les chefs de voleurs dans le coin, je les connais. Et quand ils donnent un ordre, les autres obéissent. C'est plus fonctionnel que dans la vraie police. Donc l'ennemi du bien semble devenir l'ami de celui qui aime Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de ces gens-là qui leur dit, mais il t'a fait du bien, il t'aime, tu peux aller toujours vers lui. Les autres ne t'aiment pas, va les voler les autres, ils ne t'aiment pas, ils ne t'aideront jamais. Mais ceux-là, ils t'aiment, ceux-là, Dieu est avec eux. Ne leur fais pas du mal. Pourtant, lui, il continue à mentir, à voler. Mais il y a quelque chose. Ce sont des choses, des ingrédients de Dieu dans ce monde. Des ingrédients de Dieu qui montrent des petites astuces de Dieu, des clins d'œil d'amour de Dieu, pour montrer aux croyants qui s'est donné à lui, que Dieu est vivant, que Dieu est là, qu'il veille sur lui. Avez-vous fait l'expérience que Jésus a veillé sur vous à plusieurs reprises? Les amis, je pense que dimanche prochain, je vais vous poser la question. Avez-vous la certitude, l'expérience que Jésus a veillé sur vous? Je vous demande de préparer ça. Et si quelqu'un veut venir faire un témoignage ici au pupitre, qu'il vienne le faire. Soyez certain de ce que vous dites, parce que Dieu est là, il entend. Il voit. Alors, quand ils sont là-bas, verset 10, Sanballa, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc, il y a des ennemis fonciers, ça c'est sûr. Hein? Et il y en a trois. Il y en a un troisième, c'est Geshem, c'est un arabe. Ils vont s'organiser tout le temps pour faire des sales coups. Mais ils n'arriveront à rien. J'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours. Il ne dit rien. Il ne dit rien aux Juifs. Tout près des autorités perses, il a donné ses lettres et tout. On le laisse passer, il est protégé. Aux Juifs, il ne dit rien. C'est à ceux à qui il devrait parler en premier, il ne dit rien. Vous savez que parfois, pour beaucoup de chrétiens, on n'ose rien dire. Parce que ça va être critiqué, la vision va être détruite, le projet qu'on a dans le cœur va être détruit, on n'ose rien dire. Et on se tait, Seigneur, occupe-toi de ce projet, parce que si j'en parle, ça y est. Je suis dans le point de mire. Alors, il ne dit rien. J'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Donc pendant 3 jours, il ne va rien dire, il va sortir toute la nuit avec ses quelques amis qui viennent de là-bas. Il va faire le tour de toutes les murailles et faire un constat de l'état des lieux, si vous voulez. L'état des lieux. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeais contre la source du dragon, vers la porte du fumier. Tous ces endroits-là existent, hein, les amis. C'est pas de la fable. Verset 14, je passais près de la porte de la source, de l'étang du roi. Tout ça existe. Et il y a des vestiges. Verset 15, je montais de nuit par le torrent, je considérais encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée. Je fus ainsi de retour. Les magistrats juifs ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Pourquoi ? Il a vu la main de Dieu sur le roi des Perses. Il a vu la main de Dieu sur les cavaliers, tout le service de sécurité qui l'accompagnait. Il a vu la main de Dieu sur ses lettres. Quand il donne au gouverneur, ils disent « D'accord, ils n'ont pas rien discuté. » Mais les plus durs, c'est ceux qui se réclament de sa propre religion. Le péché est encore là. Et il l'a confessé au chapitre 1, vous l'avez vu. Le péché est encore là. Vous savez, il y a un grand prédicateur, Spurgeon, en Angleterre. Il a prêché pendant des années, il a réuni des foules. Et il y avait plein de gens qui venaient, qui se convertissaient. Et un jour, quelqu'un lui a demandé comment ça c'était possible. Et ils sont descendus dans les caves en dessous de l'église, et il y avait des dizaines de personnes qui étaient en prière, lors de toutes les prédications. Mais déjà depuis 2-3 jours avant. Non-stop, hein. C'est comme le baron Tischendorf dans la Bohème, ce riche qui tout d'un coup se convertit, hein, parce qu'une petite cigane lui avait dit « Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur Jésus ?» Il était devant une grande peinture. Et Jésus regarde, et c'était en allemand, « Regarde ce que j'ai fait pour toi, et toi qu'as-tu fait pour moi ?» Mais il y avait une petite cigane à côté de lui, qui dit « Je ne comprends rien, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ?» Alors, « Regarde ce que j'ai fait pour toi, et toi qu'as-tu fait pour moi ?» Alors la petite cigane dit au baron, ou au marquis, je ne sais plus, Et toi, monsieur, qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Le soir même, il était converti. Il avait des kilomètres carrés de propriété. Il a accueilli tous les réfugiés, les chrétiens qui étaient persécutés. Et il a tellement été zélé, il y avait tellement de persécution, il y avait tellement besoin de prière, qu'ils ont décrété un jeûne et la prière à tour de rôle des équipes de 100 ans. Un jeûne de 100 ans, jour et nuit. Et il y a eu les frères Moraves sur toute la vallée du Danube jusqu'en Ukraine. Tous les chrétiens évangéliques d'Ukraine, de tous ces pays-là, se réveillent. Regardez la parole de la petite fille sur un homme qui était riche et qui s'en fichait pas mal de Dieu. Alors, est-ce que Dieu ne peut pas changer les choses? Alors, ce qui se passe ici, c'est que il sait qu'il en face de lui les plus durs. Les vrais ennemis ne sont pas ceux qu'on croit. Eh bien, Spurgeon, après avoir prêché des années, a dû demander des décisions à une grande assemblée où il y avait 1900 personnes pour qu'on décide de choses de renouveau, parce que les églises s'ankylosaient, ils ne obéissaient plus. Quand on a voté, il y avait 9 personnes avec Spurgeon de son côté. Tous les autres avaient voté l'endurcissement. Le réveil spirituel était terminé. Le réveil spirituel était terminé. Et en Bohême, avec les frères Moraves, le réveil spirituel n'était pas terminé. Où cela se joue? Dans le oui que nous avons dans notre cœur. Alors, et regardons, puis je vais arrêter, chapitre 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Alors, il lâche tout, le paquet, comme il l'a fait devant l'empereur. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ça, le grand chef politique du monde de cette époque-là, t'as permis de venir pour rebâtir, t'as donné des lettres et tous les gouverneurs sont d'accord et on a la possibilité d'avoir tous les matériaux. Alors là, ils ont le souffle coupé. Ils dirent, et c'est ça le fruit de la prière, c'est ça le fruit de la vision. Cet homme, Néhémie, qui a reçu cet appel-là, parce qu'il souffrait de l'état du peuple, c'est devenu une vision. Elle va se partager. Levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à un moment donné, nous qui nous croyons, nous sommes peut-être plus endurcis qu'on ne pense. Mais Dieu, lui, nous voit comme on est. Donc ce qu'il faut faire, c'est demander à Dieu, « Mais que penses-tu de moi, Seigneur? Où en suis-je avec toi, Seigneur ?» Je ne suis peut-être pas ce que je crois que je suis. Et à un moment donné, ce qui se passe devant Néhémie, ces gens-là se sont rendus compte. Mais lui, il était planqué, il avait une bonne place, il avait tout. Nous, on en bat, là, ça fait 4 générations qu'on est comme ça. Et lui, il vient pour nous. Lui, il vient pour nous. Il perd tout, il vient pour nous. Alors, ils disent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans ce plan de résolution. Vous devez être un modèle pour vos enfants. Vous devez être un modèle pour vos collègues de travail. Vous devez être un modèle pour vos voisins. Vous avez cette obligation devant Dieu d'inspirer la vérité. La vérité. Et regardez bien, les gens les plus durs, ces croyants-là, se sont fortifiés dans un autre sens. Sanballat le Ronite, Tobija le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Vous voyez la critique? Tout de suite? C'est les mêmes ennemis d'Israël encore aujourd'hui, hein. Pas besoin d'islam, hein. C'est pas l'islam qui a rendu les gens là-bas ennemis d'Israël. C'est le diable qui a rendu ces gens ennemis d'Israël. Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera succès. Nous et ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez pas part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe avec la place du temple maintenant ? Qu'est-ce qui se passe avec les événements qui ont eu lieu là pour le moment ? Ça chauffe, hein ? Il y a des attaques tout le temps sur le mont Golan, tout ça. Il y a des tués régulièrement. On n'en parle pas. Nous et ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons. Les amis, quel que soit le nombre, Dieu bénit les cœurs bien disposés. Quel que soit le nombre, Dieu bénit les cœurs qui se repentent, qui se confient. Les amis, nous, ses serviteurs, les amis, sortez d'ici en disant « Seigneur, Jésus, je suis à ton service. Montre-moi ce que je dois faire pour toi. Apprends-moi à en parler aux autres pour qu'ils partagent cette vision que tu as sur nous. Donne-moi cette vision de ce que je dois être et apprends-moi à la partager aux autres. Apprends-moi à mobiliser le cœur des chrétiens. Apprends-moi à mobiliser ton peuple, Seigneur, pour faire ton œuvre. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse tous pour que cette parole se fasse en nous. Amen.